Bonsoir à toutes et à tous. Toutes les bonnes choses ont une fin. Cette exposition, le papyrus dans tous ses états de Cléopâtre à Clovis, se termine aujourd'hui. Vous faites partie des heureux chanceux qui auront pu la voir dans les dernières minutes. Et le cycle, par là même, des conférences qui accompagnent cette exposition se termine aussi. Alors, on a beaucoup parlé de papyrus dans les précédentes conférences. Aujourd'hui, on va parler de papyrologie, ou plus exactement, comment finalement la discipline papyrologique s'est constituée en même temps que les collections de papyrus. Et donc, c'est Julien Aubert de Lapierre, qui est docteur de l'École pratique des hautes études et actuellement postdoctorant au Collège de France et à la Bibliothèque nationale de France. C'est un postdoctorat qui est partagé entre les deux institutions et qui, précisément, travaille sur la constitution de la collection papyrologique de la Bibliothèque nationale de France. C'est Julien Aubert de Lapierre qui va nous parler aujourd'hui de la façon dont les premières collections papyrologiques se sont constituées à travers l'exemple de la collection de la Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale, impériale, avant de devenir ce que nous appelons aujourd'hui la Bibliothèque nationale de France. Et on verra qu'à travers cette collection, c'est une discipline qui est en train de se créer. C'est aussi la façon dont la France a pu interagir avec l'Égypte, comment les fouilles ont commencé à se développer et comment les premiers papyrus sont sortis de ces fouilles et ont fini par être acquis par l'institution dont on va nous parler ce soir. Donc je laisse la parole à Julien.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci Jean-Luc de me donner effectivement l'opportunité donc de vous parler de cette recherche en cours à travers la collection des papyrus de la Bibliothèque nationale de France et plus particulièrement ici donc des papyrus grecs et coptes qui nous occupent. Alors effectivement, parler de papyrologique, parler de cette constitution de la collection papyrologique de la Bibliothèque nationale, constituée à partir donc des premières décennies du XIXe siècle, le fonds de papyrus grec et copte de la Bibliothèque nationale est un témoignage exceptionnel de la culture écrite de l'Égypte post-pharaonique et du monde gréco-romain. Ce fonds papyrologique est un témoignage est avec la collection du musée du Louvre, mais aussi aussi avec ce que l'on peut avoir à la Sorbonne, l'une des plus anciennes collections d'Europe, également avec ce que l'on peut retrouver à l'université de Strasbourg. Elle n'est pas numériquement la plus importante, mais elle est l'une des plus anciennes. Si les premières acquisitions de manuscrits provenant d'Égypte remontent au XVIIe siècle en France, grâce entre autres à des personnages comme Fabrice Péresque et Jean-Michel Van Sleb, il faut attendre un engouement renouvelé pour la vallée du Nil, avec bien sûr l'expédition de Bonaparte entre 1798 et 1801, pour que les premiers papyrus entrent dans les collections du cabinet des médailles et antiques de la bibliothèque. Aujourd'hui conservés au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, ils ont d'abord fait leur entrée au cabinet des médailles dans un temps où, effectivement, se posait la question de d'où se retrouvaient les collections égyptiennes. Du fait de l'ancienneté de cette collection, qui s'est enrichie tout de même jusque dans les années 1960 et même jusqu'en 1981, son histoire est étroitement liée au développement des études systématiques sur l'Antiquité et est liée à l'essor de l'archéologie qui marque le début du 19e siècle et le début du 20e siècle. L'étude approfondie de l'histoire donc de cette collection de papyrus de la Bibliothèque nationale que je mène actuellement permet de traiter ici des données, et notamment des données archivistiques, qui vont contribuer à éclairer le rôle de cette collection dans l'essor des sciences de l'Antiquité durant le XIXe siècle, et notamment, comme le disait M. Fournet, de l'essor de la création, finalement, de la papyrologie. Ces résultats permettent également de replacer le rôle de certaines grandes figures qui ont agi autour de cette collection, à l'instar de l'helléniste et archéologue Antoine-Jean Letrône, qui fut président du Conservatoire de la Bibliothèque royale de 1832 à 1840, et également professeur au Collège de France, d'abord à la chaire d'histoire et de morale, puis à la chaire d'archéologie, naguère tenue par Jean-François Champollion. Letrône est ainsi l'un des premiers à véritablement s'intéresser à cette collection de papyrus et à ce titre l'un des pionniers dans l'étude papyrologique française. Ces archives ici que je traite à la Bibliothèque nationale qui ont la particularité d'être une collection dans la collection puisque ces archives du département des manuscrits sont devenues des collections en elles-mêmes au sein du département des manuscrits, sont conservés toujours sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale et sont un élément unique ici pour pouvoir pister presque les acquisitions de papyrus que l'on va pouvoir retrouver au sein notamment de ces procès-verbaux dont vous avez un exemple ici, les procès-verbaux des séances du conservatoire de la bibliothèque qui permettent effectivement de retrouver un peu l'ambiance que l'on pouvait avoir entre les différents conservateurs et également les points d'intérêt que l'on pouvait alors avoir autour de ces documents. Vous en avez ici donc une des petites illustrations justement de ce que l'on peut retrouver comme trace dans ces archives. Parfois, effectivement, ça se tient à très peu de choses, mais souvent, ce très peu de choses permet de suivre cette trace, de remonter un fil qui nous permet finalement d'en savoir plus sur les différents documents. J'en ai un exemple ici avec donc cet extrait des procès-verbaux du Second Empire qui vous montre effectivement, pour le département des médailles de M. Charles Lenormand à Tesson et trois éclats de calcaire égyptien avec des inscriptions coptes. C'est très peu de choses. Vous le voyez, pas de numéro d'inventaire, pas d'éléments plus précis, de remise en contexte. Néanmoins, le fait que l'on retrouve ces traces dans les procès-verbaux avec des dates précises permet effectivement, en recoupant les différentes sources archivistiques de la bibliothèque, finalement, d'identifier ces différentes pièces. C'est notamment le cas donc, pour les exemples de ces tessons, qui sont en fait des ostracas, et que l'on peut retrouver encore aujourd'hui, qui sont conservés pour partie au département des manuscrits et pour partie au cabinet des médailles, et ainsi, par exemple, retrouver le personnage qui est à l'origine de cette acquisition, à savoir ici, par exemple, Charles Lenormand. En effet, jusqu'à présent, pour le cas de ces ostracas, il s'agissait d'une donation anonyme. On ne savait pas, effectivement, par le biais de qui et pourquoi ces collections étaient entrées à la bibliothèque. Et la lecture, la relecture de ces procès-verbaux nous donne une de ces pistes. Mais aussi, et c'est aussi là un petit clin d'œil volontaire que je voulais faire à Jean-Luc, on parle ici de papyrus. L'exposition parle de papyrus et Jean-Luc Fournet a voulu effectivement ne pas montrer ce que je suis en train de montrer, à savoir effectivement ici un exemple d'un livre des morts. Alors, l'exposition, vous l'avez vu, avait justement pour but de ne pas se borner à cette vision presque traditionnelle du papyrus en Égypte, mais de comprendre l'importance et l'enjeu du papyrus ensuite dans tout le bassin méditerranéen avec des exemples littéraires ou documentaires pour les périodes grecques, romaines, byzantines et arabes. Ici, néanmoins, pour comprendre aussi l'intérêt que l'on va avoir pour le papyrus à la Bibliothèque nationale, il est important quand même de mentionner l'exemple que vous avez ici sous les yeux, puisque, en effet, eh bien, nous avons cet exemple ici de ce que l'on appelle le papyrus Kadai, qui est là, c'est un feuillet voilà, c'est les numéros d'inventaire d'Égyptien 1 à Égyptien 19. Il y a 19 feuillets en tout, qui est la première entrée vraiment de ces premiers grands papyrus dans la collection de la bibliothèque. Qui va se faire juste dans l'immédiat après de l'expédition d'Égypte. À ce titre, ici, nous avons un livre des morts de l'époque ptolémaïque. Il porte ce nom de papyrus Kadai puisqu'il a appartenu à un certain Jean-Marcel Kadai, qui était délégué général et inspecteur des mines et qui l'aurait détenu d'un certain monsieur Simonel, lequel l'aurait acheté à Louxor. Kadai a la particularité d'avoir déroulé, restauré et sans doute publié lui-même le rouleau sous forme de fac-similé en 1805. Vous voyez donc qu'on est là très tôt. Le déchiffrement des hiéroglyphes ne se faisant pourtant qu'en 1822. On voit d'ailleurs qu'il ne donne pas le bon sens de lecture au papyrus qu'il avait sous les yeux. Et le manuscrit est également reproduit et décrit dans la description de l'Égypte en 1811. C'est le premier papyrus notable à rentrer dans les collections de la bibliothèque. Avant cela, on avait uniquement quelques inscriptions sur bandelettes de momies hein, qui dataient de l'époque du comte de Caylus. On était alors au milieu du XVIIIe siècle, donc assez peu de choses. C'est effectivement un peu la naissance de la collection papyrologique que l'on peut observer avec celui-ci. Mais à l'instar donc de l'exposition, ce ne sont pas ces papyrus de l'époque pharaonique, ou même ici ptolémaïque, qui vont nous intéresser. On va s'intéresser effectivement donc à cette collection de papyrus grecs et coptes. La première illustration, le premier exemple que je peux ainsi vous montrer, c'est le cas de ce papyrus Kazati. Alors, je vous l'ai dit, la collection des papyrus grecs et coptes de la Bibliothèque nationale est constituée donc entre 1822 et 1981. Les dernières grandes arrivées, hein, c'est vraiment les années 1920-1930. Ce fonds est composé d'environ 350 documents, pour en tout cas le fonds le grec, on n'a pas encore de nombre bien défini pour le fonds copte. Un catalogue de cet ensemble est en cours de rédaction sous la direction de Jean-Luc Fournet. Il s'agit donc à la fois de papyrus littéraires, documentaires et comme effectivement la science papyrologique le veut, on trouve aussi bien du papyrus, mais aussi des cuirs, des ostracas et des tablettes. Concernant cette première acquisition donc, d'un papyrus grec, il faut attendre donc 1821 avec ce papyrus Kazati. Ce papyrus Kazati correspond à deux numéros d'inventaire, ce sont les suppléments grecs 715 et 716. Tous deux sont entrés d'abord donc dans la collection du cabinet des médailles, puisque c'est à l'origine le cabinet des médailles qui va eh bien, collationner ces papyrus. C'est à partir de 1858 que la collection papyrologique va être reversée ensuite au département des manuscrits. Ils entrent donc au cabinet des médailles. On en retrouve effectivement les traces dans les archives, très précisément le 16 août 1822, avec quatre autres papyrus et une inscription. Le même jour, dans sa notice sur quelques manuscrits grecs apportés récemment en Égypte à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Antoine-Jean Saint-Martin, membre de l'Académie, apporte des précisions concernant l'acquisition dans une notice publiée en 1822, donc vraiment contemporaine de l'entrée des papyrus dans la collection, dans le Journal des Savants, donc de 1822. Je le cite. « Les monuments dont je vais entretenir aujourd'hui l'Académie, quoique venus d'Égypte, n'appartiennent pas à cette classe nombreuse de monuments antiques qui doivent faire pendant longtemps encore le désespoir des savants. Il s'agit de manuscrits grecs. Monsieur Kazati, voyageur récemment arrivé d'Égypte, en a rapporté avec d'autres antiquités un certain nombre de rouleaux de papyrus, parmi lesquels il y en a deux écrits entièrement en grec. Un autre est grec et égyptien, le reste se compose de manuscrits égyptiens écrits en caractères hiéroglyphiques ou hiératiques, et accompagnés de figures symboliques du même genre que celles qu'on trouve dans les manuscrits de cette espèce. L'un d'eux, dit-on, a été trouvé sur une momie grecque, il est sans figure. Antoine Jean-Saint-Martin ajoute plus loin que Casati a rapporté 16 manuscrits au total et qu'il possède également des fragments de deux ou trois papyrus qui, selon lui, semblent être écrits en latin et proviennent d'Éléphantine. On ne sait malheureusement pas grand-chose de ce monsieur Casati, si ce n'est ce que nous apprenons dans ces lignes. Alors, l'homme est également mentionné par Thomas Young et Jean-François Champollion lui-même. Champollion le mentionne comme Casati, C-A-Z-A-T-I. Mais aucun des deux, Young ou Champollion, ne nous donne plus d'informations sur son identité. Michel de Wachter, il y a quelques années, y voyait un certain F. Casati, dont il avait apparemment retrouvé le nom inscrit sur la pyramide de Khéops, une inscription qui aurait été réalisée en 1820. Ça pourrait effectivement correspondre. Néanmoins, c'est aussi l'opportunité ici des archives sur lesquelles je travaille, c'est que, outre le document lui-même, il est intéressant de le remettre dans son contexte, et notamment dans son contexte de dans le contexte de sa conservation. Or, vous voyez ici, par chance, il est encore conservé dans cette boîte avec cette reliure qui date sans doute du milieu du XIXe siècle ou en tout cas au plus tard du Second Empire, ce qui permet de retrouver aussi comment on conservait les papyrus à cette époque-là. Par chance, en tout cas pour moi, peut-être pas d'un point de vue papyrologique, mais il a effectivement conservé son emboîtage d'origine. Voilà effectivement le document. Et à l'intérieur donc de cette boîte, on retrouve les papyrus sous cette feuille de papier qui ont été collés sur du carton. C'est ce que vous pouviez donc voir ici. Voilà. Le papyrus a été collé ici sur ce carton et vous retrouvez donc son numéro d'inventaire juste là. On retrouve donc différentes informations à travers ces archives. Je vous mentionnais cette date d'acquisition. Mais c'est là aussi les éléments parmi les plus précieux. La bibliothèque a un certain goût pour les archives et pour la conservation de ses propres archives, et notamment pour la conservation de ses archives comptables. Et donc, j'ai pu retrouver effectivement les éléments de l'arrivée de ce papyrus, et vous le voyez ici notamment avec les recettes et dépenses pour l'année 1822 qui sont donc toujours conservées au département des manuscrits. Dans ces recettes et dépenses donc de la bibliothèque du roi, on va retrouver les différentes acquisitions qui ont été faites, les sommes qui ont été allouées également pour ces différentes acquisitions. Vous voyez ici les acquisitions, par exemple, pour les estampes. Et tout en haut, vous pouvez peut-être apercevoir ici la mention du report des acquisitions diverses, et notamment l'acquisition des papyrus. Donc, c'est une des originalités, effectivement. On fait grand cas, encore en tout cas pour ces périodes-là, du papyrus dans les acquisitions de la bibliothèque. Et donc, on a tendance à le mettre en exergue. Donc, c'est assez facile, finalement, de pouvoir identifier ces éléments. Et vous pouvez donc voir à ce titre ici le nom de Casati avec effectivement la somme qui a été allouée pour l'acquisition des papyrus auprès de ce monsieur Casati. Également, richesse comptable de la bibliothèque, on retrouve ici toujours dans ce registre des recettes et dépenses les documents qui ont été signés par Casati lui-même au moment de cette acquisition. Notamment pour la reconnaissance, vous voyez, je sous-signais reconnaître avoir reçu de monsieur Dacier, ce fameux monsieur Dacier qui va recevoir donc cette même année la lettre de Jean-François Champollion pour son déchiffrement des hiéroglyphes. Dacier est secrétaire perpétuel de l'Académie, mais était également l'administrateur de la bibliothèque du roi. À ce titre, c'est effectivement lui qui va faire cette reconnaissance envers M. Dacier. Donc vous voyez, pour un papyrus grec de 13 pieds et demi de long, on a même donc des descriptions finalement assez précises de ce qui est alors acquis à ce moment-là. La question qui se pose, effectivement, c'est bien ce fameux Kazati. Alors, je le disais, on en a finalement peu de traces, néanmoins une signature, et vous voyez que, a priori, cette signature, même si elle n'est toujours pas bien identifiée, ne semble pas correspondre à un F Kazati. La question est toujours en suspens de à quoi correspondent effectivement cette initiale de prénom que l'on retrouve là. Il y a effectivement... A priori, alors moi, je n'ai pas appris le même. on en rediscutera justement de cette lettre vue de près. En tout cas, la question se pose. Est-ce qu'il faut y voir effectivement ce F Kazati ? Alors, moi, personnellement, ça m'arrangerait. Parce que, effectivement, dans ce cas-là, il a effectivement séjourné en Égypte en 1820-1821. Et dans ce cas-là, on peut peut-être tenter de l'identifier. Si ce n'est pas le cas, c'est effectivement une autre question qui va se poser pour tenter d'en savoir plus, puisque ce qui est important à retenir autour de ce Kazati, c'est que Champollion le connaissait, et surtout Champollion connaissait les papyrus qui ont été achetés à Kazati par la bibliothèque, et il les mentionne justement dans sa fameuse lettre pour le déchiffrement des hiéroglyphes. On a toujours tendance effectivement à se contenter de la vision de la pierre de Rosette comme élément essentiel pour cette compréhension des hiéroglyphes, mais il y a aussi un intérêt tout particulier de Champollion pour les papyrus qui étaient en circulation à cette époque-là. Et les papyrus Kazati ont été un élément supplémentaire, en effet, pour ce déchiffrement. Ici, un morceau de collection effectivement important à travers cet exemple des papyrus Kazati. Alors, ces papyrus sont des contrats de vente qui sont d'assez grande dimension, je vous le disais, et on a effectivement ici la chance, avec cet exemple, d'en retrouver la trace, le moment précis de son acquisition, la somme qui a été allouée, qui est une somme assez importante pour l'acquisition de ces papyrus, et donc de comprendre l'engouement que l'on peut avoir effectivement pour ce type de collection à cette époque-là. Autre exemple que l'on peut évoquer ici, picoré presque, on pourrait dire, du fonds papyrologique de la bibliothèque, c'est effectivement ceux qui sont liés de plus ou moins près à l'expédition d'Égypte. Là, je vous parlais effectivement des papyrus Kazati, donc, puisqu'ils sont les premiers à entrer donc, dans cette collection des papyrus grecs et coptes. Mais je vous disais aussi en guise d'introduction que l'expédition d'Égypte a été cet élément essentiel, cet engouement que l'on va retrouver pour l'Égypte et pour cette fascination un peu qui va être entretenue ensuite pour ce pays. Les papyrus Kazati ont sans doute été acquis en Égypte au début des années 1820, avant d'entrer à la bibliothèque. Certains ont eu une histoire avant d'entrer dans la collection de la bibliothèque. En effet, donc si aucun papyrus grec ou copte n'est connu pour être entré dans la collection avant 1822, quelques documents ont été acquis en Égypte dans les suites immédiates donc, de cette campagne d'Égypte. C'est le cas donc des suppléments grecs 595 et 596, vous avez le 595 ici sous les yeux, qui représentent deux comptes de Memphis, datant du IIe siècle avant, qui ont d'abord appartenu à la collection de l'amiral de Rigny, qui avait fait la campagne d'Égypte avec Bonaparte en tant qu'aspirant, puis à la collection de l'abbé Grépeau. C'est lui, ensuite, qui va les vendre à la bibliothèque en 1861. Le trône, que je mentionnais tout à l'heure, dans sa publication des papyrus des collections françaises, publication qui est sortie des presses de l'imprimerie impériale en 1865, précise que les deux papyrus en question ont été vendus au détail par les Arabes pendant sa station dans les mers du Levant. Rini les aurait, semble-t-il, donc achetés pendant son séjour en Égypte, en tout cas au moment de son retour d'Égypte en France. Alors, ce type d'indication, parfois un peu lacunaire, parcellaire, et à remettre dans le contexte de son époque, sont néanmoins des éléments importants parce que nous permettent parfois de retracer effectivement la localisation originelle de ces documents, ou en tout cas de comprendre face à quel type de vendeur on avait affaire. Est-ce que effectivement c'était un vendeur local qui l'avait récupéré? Est-ce que c'était déjà un Européen installé en Égypte qui l'avait collectionné? Ça, ce sont des éléments effectivement importants pour cette remise en contexte. Autre exemple, en 1879, c'est l'acquisition des suppléments grecs 908 et 909, qui sont deux contrats de vente provenant du nome de Tis, hein, datant respectivement de 592 et 599 avant notre ère, donc ils sont remis alors à la bibliothèque. Alors la donatrice ici, puisqu'il s'agit d'une donatrice, est connue, c'est une certaine Madame Boselli. Madame Louis-François Timoléon Boselli ne dit pas forcément grand-chose, par contre son nom de jeune fille nous en dit un peu plus, puisqu'il s'agit de Bathilde Jomard. Il s'agit de la fille d'Edme François Jomard, qui est lui un personnage d'importance dans ce contexte égyptien, puisque Jomard s'était constitué une importante petite collection égyptienne et surtout a été l'un des membres de l'expédition d'Égypte pour laquelle il a travaillé comme ingénieur, géographe et archéologue avant d'être le président de la commission de la description de l'Égypte à partir de 1807. Parmi ses multiples titres et occupations, Jomard a été de 1830 à sa mort en 1862. C'est pour ça qu'on avait souvent tendance à l'appeler le dernier Égyptien, le dernier qui a fait partie de la campagne d'Égypte. Il a été donc conservateur au département des cartes et plans de la bibliothèque. Donc on peut comprendre aussi le lien qu'il entretenait avec celle-ci et pourquoi sa fille avait fait don de ce papyrus à la bibliothèque. Il semble donc très probable qu'il ait acquis ces papyrus en 1799 lors de son voyage de recherche en Haute-Égypte en tant que membre de la commission Fourier. Comme cela semble plus plausible, nous savons donc qu'une partie de sa collection, avait été évidemment constituée durant ce voyage. Celui-ci donc a la particularité, en plus d'être, vous le voyez, toujours dans son cadre tel qu'il est arrivé au moment de sa donation à la bibliothèque, hein, 1879, un cadre en bois noirci, vous avez donc aussi une autre vision donc de ces documents tels qu'ils arrivaient à la bibliothèque au XIXe siècle. Également, là, voilà, ça, ce sont les registres de dons de la bibliothèque, un des registres de dons qui vous permet effectivement donc de retracer cela, puisque vous retrouvez ici au numéro 1860, Madame Boselli, donc deux papyrus grecs de l'empereur ici, un contrat de vente 592-599, comme on le mentionnait tout à l'heure. Alors, autre cas qui a longtemps été lié à cette expédition d'Égypte, c'est ce supplément grec 717. Puisque, en effet, alors dans son contexte historique de l'arrivée de cette pièce à la bibliothèque, c'est une pièce qui pose un problème qui devrait être résolu assez vite, parce que vous avez cette inscription qui apparaît ici, qui mentionne donc Dubois 1847 et le numéro d'inscription au supplément grec, donc 717, que vous retrouvez là. Alors, on avait longtemps pensé qu'il s'agissait effectivement donc d'un Dubois qui est Dubois Aimé. Dubois Aimé est un personnage qui a fait là aussi partie, qui a été membre de l'expédition d'Égypte, qui s'est constitué là aussi une petite collection, qui n'était pas lié particulièrement à l'archéologie, qui était ingénieur, mais ingénieur des ponts et chaussées, mais qui gardera le goût de l'Égypte ensuite lorsqu'il sera de retour en France. À sa mort, en 1846, sa collection est dispersée et une bonne partie de cette collection sera cédée au musée de Grenoble. Il pouvait sembler donc assez logique, quand on voit effectivement le document en l'état, que Dubois 1847 pouvait bien correspondre à ce Dubois aimé, puisqu'il y a eu une vente également pour disperser les restes de sa collection en 1847. Néanmoins, c'est là que les archives sont des éléments précieux. Les registres de dépenses que je mentionnais tout à l'heure de 1822 ne mentionnent pas uniquement le nom de Casati, mais également un certain monsieur Dubois, que vous retrouvez ici pour deux manuscrits sur papyrus. Et là, effectivement, où ça se corse, c'est qu'on a effectivement cette mention de Dubois en 1822. Or, les autres registres ont tendance à uniquement mentionner ce papyrus Dubois lié à cette date de 1847. Or, le numéro au supplément grec que vous avez là est dans la suite logique des papyrus Casati que je vous ai montré tout à l'heure, puisqu'il s'agissait des numéros 715, 716, et là, vous avez le 717. Or, ici, ce papyrus est contrecollé sur un carton du même type que celui du montage Casati que je vous ai montré tout à l'heure, et surtout, il est conservé dans la même boîte. Donc là, il y a effectivement quelque chose une question en tout cas qui se pose. La question effectivement est sans doute cette inscription-là est apocryphe, a été ajoutée plus tard, peut-être effectivement une confusion avec Dubois aimé, mais là où on a un indice supplémentaire sur l'identité de ce Dubois de 1822, c'est le document que vous avez là, puisque là aussi on a reçu de M. Dacier la somme pour l'achat du papyrus de ce M. Dubois, et vous le voyez ici, il y a également donc la signature de ce M. Dubois, et là il n'y a pas de doute à avoir sur les initiales de son prénom, il s'appelle L.J.J., Léon Jean Joseph. Or, ce personnage, dont je l'ai connu par ailleurs, puisque ce personnage est un dessinateur qui postulera 4 ans plus tard à la bibliothèque pour devenir dessinateur au cabinet des médailles. Et ce personnage est un ami de Jean-François Champollion. Et donc, on peut avoir plus de logique et mieux comprendre effectivement comment finalement le papyrus peut être lié à ce donc Léon-Jean-Joseph Dubois. La question, effectivement, pourquoi a-t-on eu une inscription effectivement liée à Dubois 1847 à un moment ? Là, la question est toujours ouverte. Autre exemple d'importance dans ces acquisitions, c'est un des plus fameux papyrus de la collection de la Bibliothèque nationale, c'est le supplément grec 574, connu sous le nom de papyrus magique de Paris. Ici, un document donc d'importance que l'on connaît également sous le nom de papyrus Anastasie. Donc, ces documents datent des environs de 200 à 399 de notre ère et sont dispersés entre Paris, Louvre et Bibliothèque nationale, Londres, Berlin, Leyde et Stockholm. Le papyrus a été acheté à Paris en 1857 dans une vente des collections d'Anastasie. Anastasie, c'est un certain Ioannis Anastasiou, plus connu donc sous son nom de Giovanni Anastasie. Il a vécu entre 1765 et 1860. C'est un grec d'origine macédonienne. Il était en excellent terme, et c'est grâce à cela aussi qu'il s'est constitué une sympathique collection avec les vice-rois Mehmet Ali et Ibrahim Pacha, également proche de Bernardino Drovetti, qui était consul de France en Égypte, et très impliqué donc, dans la communauté grecque d'Alexandrie. Il est lui-même consul des Royaumes-Unis de Suède et de Norvège de 1828 à 1857, ce qui lui assure une position assez confortable à cette époque-là en Égypte. L'homme est également connu pour être un homme d'affaires assez habile, faisant le commerce des céréales, et plus intéressant encore pour nous, la collection et la vente d'antiquités. Les pièces de sa collection ont notamment été vendues au gouvernement néerlandais, à Leyde en 1828, mais également au British Museum en 1839 et à la France en 1857. Ici, il n'a pas été vendu dans une collection complète, c'était une vente aux enchères. Et c'est assez intéressant de voir effectivement l'engouement que l'on va avoir autour de ce papyrus lorsque l'on apprend à la bibliothèque qu'il est mis en vente, puisqu'on voit une sorte de branle-bas de combat des conservateurs à ce moment-là pour obtenir un budget pour acquérir. On voit effectivement que c'est un budget un peu hors norme que l'on va avoir, et il va apparaître ainsi eh bien, dans ces autorisations d'acquisition que vous avez là pour ce manuscrit grec, donc composé de 33 feuillets de papyrus. Il réapparaît à plusieurs reprises et il présente surtout l'originalité dans ses demandes d'acquisition et surtout dans la demande de budget pour acquérir ce papyrus, de laisser un blanc dans la somme allouée pour le budget. C'est-à-dire qu'on va effectivement laisser un peu libre cours finalement pour l'acquisition du papyrus, puis on ajoutera la somme après. Donc ça fait partie aussi des curiosités d'un document que l'on veut vraiment obtenir, et c'était effectivement le cas de celui-ci. Et il avait même été complété, parce qu'il y avait plusieurs papyrus au moment de la vente Anastasie, et donc vous avez encore trois papyrus provenant de la vente Anastasie qui apparaissent ici. On est quelques années plus tard, on est en 1861, et vous aviez alors un intermédiaire, un monsieur De Witt, pour acquérir et compléter finalement l'acquisition de 1857 autour de ce document essentiel et dont on a conscience de l'importance ici pour l'enrichissement des collections. Alors, le projet qui est le mien ici pour travailler sur la constitution de ce fonds papyrologique à la Bibliothèque nationale et pour comprendre les enjeux ici de la naissance de la discipline papyrologique nécessite également de prendre en considération les personnages qui rayonnent autour de cela, notamment donc les donateurs, les vendeurs, les différents témoins et acteurs de cette naissance de la papyrologie. Par chance, les pièces d'archives que l'on peut avoir à la Bibliothèque nationale, mais aussi aux Archives nationales ou à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, sont riches de l'implication de ces grands savants et des rapports qu'ils pouvaient aussi entretenir entre eux. On sait ainsi que Gaston Maspero, qui avait été envoyé en Égypte en 1880 pour succéder à Mariette à la tête du service des antiquités de l'Égypte, était un proche de Léopold de Delisle, qui était à cette époque-là, à cette fin du XIXe siècle, administrateur de la Bibliothèque nationale. Donc ce sont des éléments aussi qui sont essentiels pour comprendre les enrichissements de la bibliothèque durant cette période-là. Puisqu'en effet, avec Mariette puis Maspero, on va avoir des éléments essentiels autour de la recherche archéologique en Égypte et donc de la manière d'enrichir la collection de la Bibliothèque nationale avec des documents qui ont cette fois-ci un contexte archéologique. Avant cela, effectivement, on était surtout sur un commerce d'antiquités par rapport à ce que je pouvais évoquer pour Anastasie ou même Casati. On va donc avoir des échanges de correspondances que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les archives de la Bibliothèque nationale, des échanges entre le ministère, vous le voyez ici, de l'instruction publique, et le directeur du service des antiquités de l'Égypte, à savoir donc Gaston Maspero, que vous retrouvez ici à droite, sur les différentes acquisitions de manuscrits qui peuvent être envisagées alors, et des envois qui vont être faits à la Bibliothèque nationale. Donc ça, c'est un autre enjeu majeur ici pour ces acquisitions. À ce titre, à la fin du XIXe siècle, la Bibliothèque nationale a acquis 4 groupes de papyrus de provenance connue qui ont été soit achetés par des égyptologues français, soit trouvés lors de fouilles. Les différents exemples ici sont des fragments de textes littéraires grecs et un document copte, c'est celui que vous avez ici, le copte 135. Tout cet ensemble provient d'Armim. C'est un groupe de fragments de codex, hein, dont certains ont été écrits au verso de documents appartenant aux archives du stratège du nome Panopolite. Les papyrus ont été retrouvés donc à Panopolis, hein, cette Armim moderne, probablement dans une nécropole, et ont été donc acquis en 1884-85 par Urbain Bourian, par l'intermédiaire de Gaston Maspero. Et c'est souvent effectivement par le biais ensuite de Gaston Maspero que l'acquisition pouvait alors se faire au sein de la bibliothèque. On a également l'exemple de ce supplément grec 1120. En effet, un donateur non identifié va faire don à la bibliothèque des pages d'œuvres de Philon d'Alexandrie et de fragments d'Évangile qui étaient conservés dans une reliure en cuir. C'est un codex qui est réputé avoir été retrouvé à Coptos en 1889. Mais là, comme aucune mission officielle n'était alors en cours sur le site, on a effectivement la question effectivement d'une sortie d'une fouille non officielle qui a permis effectivement de découvrir ce type de document. Alors ces sorties non officielles ont aussi un intérêt, c'est que ensuite des fouilles officielles puissent être organisées. Ça a été notamment le cas par exemple du site de Bawit. Ce sont effectivement des découvertes d'éléments du monastère de Bawit qui ont permis ensuite d'attirer d'avoir un intérêt pour ce site pour ensuite envisager une fouille sur ce site. Bien des années plus tard, hein, il faut attendre 20 ans plus tard pour avoir d'autres éléments qui sont entrés dans les collections. On est là en 1913 avec cette fois-ci un don d'Émile Guimet. Vous le savez, hein, Émile Guimet est celui qui finance à grands frais les fouilles d'Antinoé. Et parmi les nombreuses découvertes faites par Cléda, hein, qui les mettra en valeur à travers différentes expositions qui tourneront un peu partout en France, il y a eu évidemment des découvertes de papyrus. Et c'est notamment donc le cas de papyrus grec et copte, et notamment celui que vous avez ici sous les yeux, qui a été un document ici qui a été transcrit en 1901 par un dénommé Seymour de Ricci, sur lequel je vais revenir dans quelques instants, mais qui nous montre là aussi comment on peut avoir finalement une donation à travers cet Émile Guimet, mais tout en conservant un contexte archéologique, puisque là, effectivement, le contexte est parfaitement connu. Alors, Seymour de Ricci, c'est un cas extrêmement intéressant dans l'histoire de la constitution du fonds papyrologique de la Bibliothèque nationale, puisque la plupart des fragments qui appartiennent aujourd'hui à la collection des papyrus grecs de la bibliothèque proviennent de cette donation faite par Seymour de Ricci, qui a vécu donc entre 1881 et 1942. Alors, définir Seymour de Ricci, c'est compliqué. C'est un homme de lettres, un historien du livre, un bibliographe. Il est d'origine britannique, mais il est basé à Paris. Il a fait plusieurs donations à la Bibliothèque nationale. Il a l'originalité, effectivement, de s'intéresser un peu à tout, Seymour de Ricci. C'est un personnage qui travaille beaucoup. C'est un personnage qui aime découvrir des choses. Et le papyrus a fait partie, effectivement, on pourrait presque dire, de ses passions. Il a fait donc une donation de 31 lots de papyrus, non pas de 31 papyrus, mais bien de 31 lots de papyrus, dont le contenu et l'histoire de la conservation sont consignés dans le livret que vous avez aujourd'hui sous les yeux, qui porte lui-même un numéro d'inventaire de la Bibliothèque nationale, le copte 166, un petit recueil donc écrit de sa main, intitulé « Papyrus et fragments de manuscrits en hiéroglyphes linéaires, en hiératique, en démotique, en grec, en arabe et surtout en copte donné à la Bibliothèque nationale par Seymour de Ricci le 20 avril 1920 ». Ces documents ont été acquis par Ricci par le biais d'achats ou de dons lors de deux de ses voyages en Égypte, durant l'hiver de 1905 et en 1909, ainsi qu'à quelques occasions ultérieures. Et il va donc décrire assez rapidement le contenu de ces lots. Vous le voyez donc, par exemple, le numéro 6, lot de parchemin et papier copte et arabe, acheté à Michel Kazira, Le Caire, 6 mars 1905. Alors, peu d'éléments peu d'informations sur les documents eux-mêmes. Par contre, élément essentiel pour moi, c'est qu'on peut retracer chronologiquement son voyage, parce qu'il va donner effectivement toujours le lieu où il a acheté ou récupéré le document, la date, donc on peut effectivement sur une carte assez facilement retracer le voyage de Ricci, et surtout, autre élément essentiel pour moi, c'est qu'il précise à qui, souvent, il les a achetés. Et moi, ça me permet effectivement de, finalement, d'un document conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, de revenir à son vendeur d'origine, eh bien, au début du XXe siècle, en Égypte, avec parfois des choses assez étonnantes. Vous le voyez notamment ici pour ce lot numéro 8, hein, lot de papyrus et domestiques et autres achetés de Haji Ibrahim, les pyramides, 17 mars 1905. C'est en l'état peu d'informations. Pourtant, le fait de nous dire qu'on est en 1905, qu'il les a achetés aux pyramides, quand on mentionne les pyramides, c'est qu'on est à Giza et qu'il les a achetés à en fait, ce qui est Hajj Ibrahim. C'est un élément essentiel parce que Hajj Ibrahim est un vendeur d'antiquités notoire au début du XXe siècle en Égypte. C'est un grand pourvoyeur d'antiquités qui fait remonter effectivement des antiquités achetées frauduleusement depuis Louxor et il les vend ensuite, eh bien, il a pignon sur rue, hein, il les vend effectivement eh bien, aux touristes de passage ce début du XXe siècle. Donc ça, ce sont des éléments essentiels pour moi parce que Hajj Ibrahim, on le connaît parfaitement et c'est une grande dynastie effectivement de vendeurs d'antiquités, mais ça peut aussi me donner moi des indications sur la provenance d'origine finalement de ces papyrus. Donc on voit que tous ces éléments finalement s'imbriquent les uns dans les autres et un document comme celui-ci est tout à fait essentiel pour compléter les informations sur cette collection. Je voulais vous montrer effectivement que du coup, le lot numéro 8, vous le voyez donc, devenu copte 155, donc c'est ce document-là qui est donc celui acheté par Hajj Ibrahim en 1905. Et voilà, je vous le disais, je vous parlais de lots hein, de papyrus. Alors, ce sont des lots qui sont un peu, parfois de montage de briques et de brocs, hein, qui sont parfois encore les lots tels qu'ils ont été cédés par Seymour de Ricci en 1920. Donc, il y a un vaste puzzle encore aujourd'hui à reconstituer hein, dans ce fonds copte Seymour de Ricci, donc conservé à la Bibliothèque nationale. Pour finir, je voulais revenir sur un document que vous avez pu voir donc, dans l'exposition qui vous montre quelque chose d'assez étonnant, essentiel, et que M. Fournet a mis justement en avant dans cette exposition, c'est comment ces documents nous sont parvenus. On a effectivement, vous voyez, le contexte archéologique, on a le contexte d'achat d'antiques. Pour le supplément grec 1379, vous l'avez vu et je ne m'attarderai pas dessus dans l'exposition, c'est grâce eh bien, à un plat de reliure d'un manuscrit de Saint-Martin de Tours que ce document nous est parvenu. Donc vous voyez là aussi un autre exemple de la manière dont la Bibliothèque nationale s'est enrichie, puisqu'on parle ici d'un manuscrit d'époque carolingienne. On est sur une reliure agglutinée au XVe siècle avec des fragments de parchemin, avec une bibliothèque qui a été ensuite vendue au XIXe siècle, pour ce manuscrit de Saint-Martin de Tours, qui est aujourd'hui conservé aux Pays-Bas. Mais finalement, ce papyrus, presque miraculeusement, est entré dans les collections nationales françaises dans les années 1960 par le biais eh bien, d'un achat réalisé auprès de la collection Philips en 1967. Donc on voit finalement ce cheminement assez extraordinaire qui nous a permis finalement eh bien, de retrouver ce document attribué à Ephrem le Syrien dans les collections nationales. Mais vous le voyez, on pourrait passer finalement évidemment des heures, je pourrais passer des heures à vous parler de la collection des papyrus de la Bibliothèque nationale, parce que, comme je vous le disais au début, ce n'est pas forcément numériquement la plus importante, mais elle a cette richesse chronologique, à la fois d'avoir des documents qui sont arrivés, qui sont entrés dans les collections des années 1820, qui permettent de considérer effectivement ce rapport à la vente d'antiquités, au contexte archéologique de la fin du fin 19e, début du 20e siècle, comment les collections ensuite se sont constituées au cours du 20e, parfois ont été cédées, données ou achetées auprès de la Bibliothèque nationale. Mais il y a aussi plein d'autres enjeux à observer dans ces archives de la Bibliothèque nationale, et notamment dans cette construction de la papyrologie. En effet, dans les différents documents qui sont à ma disposition dans les archives, et notamment dans les archives des administrateurs généraux, on retrouve dans ces dossiers administratifs comment on a voulu aussi faire de cette papyrologie un enjeu majeur à la bibliothèque au début du XXe siècle, puisque dans cette lettre adressée par Louis Avet, qui était professeur au Collège de France et président de la 4e section de l'École pratique des hautes études, destinée à Henri Marcel, qui était administrateur général de la bibliothèque, comment on a voulu déménager une partie de collection de papyrus à la Bibliothèque nationale pour encore plus enrichir cette bibliothèque, et comment on va réfléchir à travers le document reçu ici où on met justement en avant l'existence d'une papyrologie, vous le voyez ici sur ce document, comment, en réponse à ce courrier, on va envisager de recevoir cette collection de papyrus, mais surtout de la mettre à disposition du public. On va commencer à réfléchir dans le document que vous avez ici sous les yeux à comment lui donner une vraie place dans la salle de lecture du site Richelieu, de concevoir des meubles spéciaux pour recevoir cette collection et ainsi mettre à disposition cette riche collection papyrologique. Ce projet que je mène permettra donc d'apporter un éclairage supplémentaire, un jour nouveau un peu sur l'histoire de cette collection de papyrus donc du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, en le replaçant, vous le voyez, dans un contexte historique, parce que les enjeux aussi des rapports entre la France et l'Égypte, évidemment, sont essentiels dans la réflexion menée autour de cette collection. Et à travers cela, c'est un éclairage supplémentaire, en effet, sur l'histoire de l'archéologie en Égypte, sur la formation de ces collections patrimoniales, mais aussi du fonctionnement du marché de l'art à cette époque et du développement des disciplines archéologiques, papyrologiques, comment celles-ci fonctionnent ensemble au cours de ces périodes. Je vous remercie.